Monsieur Pagny, Florent, j'ai ici votre déclaration de revenus pour l'année 2016.
Je le veux pas dans mon équipe, lui-là. On peut le refiler à Jennifer ?
On n'est pas dans The Voice, hein, ici, monsieur Pagny. On est au ministère des Finances, à Bercy. Retournez-vous, si vous voulez bien.
This is a Fisc !
Ouah, Bercy ! Ah ouais, j'adore. J'y ai fait le Savoir Aimer World Tour. Une fois, je suis parti avec 30 000 de cash.
Monsieur Pagny, vous avez déclaré pour 120 000 euros de frais de serpent. Ça correspond à quoi, s'il vous plaît ?
C'est mes futins en crotale. Bon, j'ai pas compté les frais de crocodile pour mes vestes, hein. Ça faisait trop, sinon.
Et les 17 000 euros de débroussailleuse ?
C'est pour tailler mon bouc.
Bon, y a quelque chose qui va pas, monsieur Pagny. Y a trop de frais. Alors expliquez-vous.
Moi, je sais pas comprendre. Je suis portugais. Je m'appelle Florentino Paniche de Oliveira de Patagonia.
Il se fout de moi, là ?
Non. Il est comme ses vestes, hein. C'est un caméléon.
Chalou, j'y vais. Chez mon avion pour Lisboa. Adeus.
Bonsoir, ça y est, les travaux à Radio B sont lancés. Ça coupe, ça perce, ça scie. Les voisins vont être contents. Pas question pour autant pour vous abandonner pendant 5 mois. On s'est dit qu'on allait remonter le temps à grands coups d'émissions divisibles par 100 ou presque. Ce soir, nous reviendrons le 18 octobre 2002 sur Feu Tropique FM. Au Terminus des Prétentieux avait lieu le vendredi de 19h à 21h et nous parlions cinéma, musique et médias. Nous fêtions la 100e et l'arrivée sur Terre d'Alice. Depuis, elle a bien grandi. Nous lui faisons de gros bisous. Christian, Ghislaine, Étienne, le concepteur de l'affiche de l'émission, Clément, le petit nouveau, Patrick, Jean-Philippe et Thierry, en direct de Mayotte, avaient mis leur plus beau costume du vendredi. Ce soir, il sera question de cinéma. Ne cherchez pas à appeler pour le blind test, le numéro de téléphone a changé et les places de cinéma ont été gagnées. Retrouvez à la fin de la rediffusion de l'émission les concerts de la semaine du 16 au 22 mai 2025. Alors, vous êtes bien installé dans la DeLorean du Doc, sur le convecteur temporel, vous avez choisi le vendredi 18 octobre 2002. Bon voyage sur le 90.0.
Alors, il dort le gros con ? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
C'était le 1er septembre 2000. La France était encore à gauche, mais Saint-Étienne déjà en seconde division, la fin d'une époque. Nous étions quatre garçons, plus tout à fait dans le vent, paralysés par le trac au moment d'affronter les micros, malgré l'expérience acquise par certains d'entre nous sur d'autres stations et qui leur valut une excommunication bien méritée. Nous étions trois à ruisseler littéralement de trouille dans nos t-shirts douteux, le quatrième, Thierry, ayant préféré garder son traditionnel pull à col roulé pour nous faire croire qu'il était à l'aise. Sacré Thierry. Pourtant, à l'aube du premier terminus des prétentieux de l'histoire, les grands pontes de Tropique FM avaient fait de leur mieux pour atténuer un trac bien légitime. Georges, notre directeur d'antenne, avait mis ses tongs du dimanche et nous avait ouvert ses petits bras poilus et musclés. Quant à Charles, notre bon président, ses mots justes avaient su nous rassurer. « Les gars, vous avez vraiment un physique de radio, ça devrait marcher. » Béni sois-tu, Charles, ta lumière nous a guidés. Et 100 émissions plus tard, le bateau ivre du terminus continue à voguer à plein régime, atteignant une vitesse de croisière qui a fait cruellement défaut, vous l'avez remarqué, au défi Areva, le calamiteux rafio français des éliminatoires de la Coupe América, dont on se demande par moments s'il n'est pas barré par Gilbert Montagnier. Durant toutes ces semaines, nous avons lu, écouté, regardé, enregistré, interviewé, écrit, raturé, effacé, recommencé. Nous nous sommes engueulés parfois, réconciliés toujours, avec le même souci de vous faire partager nos coups de cœur ou nos coups de gueule. Et nous voilà à la 100e, tels des Marcel de Sailly des Andes FM, à Marcel à qui nous avons souvent emprunté dans nos commentaires l'inspiration et le lyrisme qui lui faisait déclarer à l'issue d'un Chypre-France encore dans toutes les mémoires, deux points ouvrez les guillemets, je crois que bon. Au terminus des prétentieux, 100e coupe de champagne ce soir, nous célébrons l'arrivée d'Alice, future animatrice ici, si j'en crois ses premiers commentaires, heureux. Maintenant que le terminus a trouvé sa dame, pour les 100% d'audience, il n'y a plus de raison qu'on rame. Bonsoir. bonsoir et merci à tous, que vous soyez un fidèle de cette modeste émission, que vous vous risquez pour la première fois sur les pentes savonneuses du bon goût, de la mauvaise foi et de l'impertinence. Comme l'aurait formulé un chanteur arménien résident en Suisse, sans doute pour le climat, merci pour la formule Patrick, ils sont venus, ils sont tous là, mais personne ne va mourir ce soir, et surtout pas celle dont le sourire radieux illumine la morne tapisserie du studio, qui serait grand temps de changer. Sa voix a fait vibrer le cœur, et pas que le cœur, de bien des auditeurs du terminus des débuts. Bonsoir Ghislaine.
Bonsoir les garçons, je suis contente de revenir pour la centième, voilà, pour partager aussi des coups de gueule et des coups de plaisir.
Ben nous aussi on est contents de te retrouver. Dans quelques minutes, le parrain de l'émission nous rejoindra par téléphone, un Didier Porte qui s'entretiendra, je crois, avec nous quelques instants, pendant lesquels il ne frappera pas ses enfants, c'est déjà ça. Quant à lui, il a délaissé provisoirement la distillation de son rhum à 138 degrés pour nous accompagner. Son coup de pinceau vaut largement son coup de fourchette. L'affiche du terminus des prétentieux, c'est lui. Bonsoir Étienne, mais Étienne n'est pas là dans le studio, je viens de m'en rendre compte.
Par contre, on peut l'imiter si vous voulez.
Oui, tu pourrais ronfler aussi, ça sera assez, ça serait criant de vérité. Il est jeune, il a fait des débuts en fanfare sur cette antenne grâce à son intervention divine. Il est passionné de cinéma et il m'a déjà promis une carrière à la Jean Lefebvre. Nous accueillons Clément.
Salut à tous, et bien pour moi c'est la deuxième et je souhaite un très heureux anniversaire à l'émission.
Eh bien c'est très gentil de ta part. Nous saluons également Thierry qui sera avec nous par téléphone tout à l'heure. Un Thierry dont la zoophilie galopante l'a poussé à partir à Mayotte où à l'heure actuelle il pêche le poisson vêtu de son seul harpon qu'il a fort grand paraît-il. Nos pensées vont aussi à Frédéric, hein, surnommé Django Reinhardt par ses voisins de quartier, tous équipés de sonotone. Ses légendaires imitations de David Trezeguet sont remontées jusqu'aux oreilles de Roger Lemaire et l'ont poussé à s'exiler en Tunisie. Sa pensée nous accompagne. Sans oublier Robert, hein, qui n'a pu se joindre à nous, puisqu'il anime une rétrospective Christophe Lambert au cinéma Les Trois Boules, dans le 16e à Paris. Pour vous, il s'est abonné à Téléstar, mieux même, il l'a feuilleté. Sa photo surmontée de l'inscription Wanted décore les murs de TF1 où il n'a pas que des amis. Je salue Michel.
Oui, bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous nos intervenants et invités d'un soir. Et quel soir, hein, la centième. Alors 200 heures d'émission, soit des centaines de films présentés, plus de 850 morceaux de musique, plus de 600 artistes différents, 98 BO, 93 blind tests qui n'existent plus malheureusement, plus de 20 phoneurs et non des moindres, hein, Christian Descamps, Benabar, Mickey 3D, Luc, Didier Porte, des rubriques disparues comme elles étaient arrivées, je pense surtout à l'artiste de la semaine, au mort de la semaine, rappelez-vous, hein, Jésus
Léon et Léon Citron,
hein, combien, à 23 francs.
Drucker,
ouais, hein. Au morceau rigolo, à la copine en conforme et à ce bed en vrac qui n'a jamais été diffusé. Alors je dirais merci à tous et à tous ceux qui nous supportent et qui nous écoutent depuis le 1er septembre 2000. On va essayer de tenir le coup. Rien que pour vous, on est prêt à tout, même à lire Télé 7 jours. Alors chapeau bas, mesdames et messieurs les auditeurs.
Grand amateur de cinéma américain, son cœur penche du côté de Hollywood, mais son foie reste désespérément tourné vers Saint-Émilion. Salut à Jean-Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs, Daniel, André, Anne. Et moi je salue donc la bienvenue à la petite Alice, et je souhaite aussi une longue vie au terminus des prétentieux.
Ses nouvelles responsabilités de père de famille n'ont en rien entamé son esprit subversif qui l'a poussé parfois à exercer sa profession revêtue d'un seul t-shirt Charlie Hebdo. C'est Patrick à qui je souhaite le bonsoir.
Et bonsoir. Alors une fois n'est pas coutume, je vais un moment d'émotion dans cette émission parce que je vais embrasser trois femmes que j'aime beaucoup et qui comptent pour moi. Elles m'ont servi de guide spirituel dans ma vie, excusez-moi je suis un peu ému, hein. Dans ma vie quotidienne, il s'agit de Bernadette Chirac, Christine Bravo et Jeannie Longo. C'est pour moi, c'est des maîtres à penser, enfin des maîtresses à penser. Non, je plaisante, je voulais juste saluer affectueusement ma mère qui m'a appris entre autres la mauvaise foi et le bon goût, ma compagne qui me supporte depuis trop longtemps, deux septennats comme Jacques Chirac, et ma fille qui a décidé de venir au monde donc le jour de l'anniversaire de l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. On en reparlera tout à l'heure. Alors Daniel, Anne et Alice, je vous embrasse et je n'oublie pas Asdine qui lui aussi est mon maître à penser.
est-ce que tu suis le concours de l'Eurovision ?
Le concours de l'Eurovision, oui, c'est là que j'ai eu mes premiers émois, peut-être pas musicaux, mais sexuels, notamment avec la blonde d'Abba, là, qui était assez plantureuse.
Ah oui, et avec Catherine and the Waves.
Catherine and the Waves.
Est-ce que je peux faire un petit récapitulatif, oui. Enfin, une petite correction, correctif plutôt ?
Oui.
C'est pas avec la blonde d'Abba qui a eu son premier émoi sexuel, c'est,
non, non, c'est
avec le barbu.
Oh, la sortait pas venir, celle-là. Non.
Oui, donc Catherine and the Waves, c'était le groupe britannique qui avait remporté l'Eurovision en 1997.
Mais j'ai écouté des albums de Catherine and the Waves dans les années... bon, c'était pas mal. Oui.
Et l'auteur et le compositeur des chansons de Catherine and the Waves, c'est en particulier du succès qui avait, enfin de la chanson qui avait remporté le succès à l'Eurovision en 97, c'était une Anglaise, Kimberley Roux, que vous venez d'entendre là avec Restless Ocean. C'était tiré d'une compilation Songs to Get Lost With, sortie en 2002, une compilation de chansons britanniques et ma foi fort, fort intéressante.
Et il a valu sur le surnom de Roux de la Fortune.
Et Kimberley Roux était surtout connue donc pour quelqu'un qui composait des musiques et créait des paroles pour les autres. Et puis finalement là, pour cette compilation, elle s'est mise un peu à son propre compte et je pense que l'expérience mérite d'être renouvelée.
Ça me donne des regrets, moi j'aurais dû donner un prénom américain à ma progéniture.
Ne parle pas avec un biscuit apéritif, c'est très désagréable.
Cinéma, cinéma de Saint-Lantin et de film en film, je t'ai donné mon existence. Et toi, gamin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi ? Cinéma ! Cinéma !
C'est la centième ce soir et c'est la centième fois qu'on écoute ce petit morceau musical. Hein, Christian, peux-tu nous rappeler d'où il est extrait ?
On le doit tout simplement à Bernard Herrmann et c'est tiré de Psychose, d'Alfred Hitchcock.
Ça fait peur, ça fait froid dans le dos. Hein.
Ah oui, moi je prends plus ma douche depuis ce temps-là.
Grand
les gens s'en sont rendus compte.
Il est l'heure de parler cinéma. Hein. C'est beau, ça boîte la centième, on va quand même pas changer nos bonnes habitudes. Eh bien, un premier film, Mel Gibson quitte le kilt pour enfiler la salopette.
Eh oui, Mel Gibson avec le kilt de Bravart, eh bien, on ne le verra pas dans le film Signe. On le verra avec sa tenue de fermier qu'il incarne. Il incarne d'ailleurs un père de famille qui était pasteur, qui a perdu la foi et qui a rendu sa charge de pasteur, justement. Et il essaye, tant bien que mal, d'élever ses deux enfants avec, je crois, l'aide de son jeune frère. Et puis un matin, il découvre évidemment un étrange symbole taillé dans la récolte et il pense que, ben, au départ, c'est un mauvais tour de voisins. Et puis finalement, avec des faits similaires qui surviennent un peu partout dans le monde, il se pose des questions sur, sur l'origine de ces signes. Et ce film est donc né de la fascination du réalisateur pour les crop circles. Qui ont fait couler beaucoup d'encre dans le monde. Certains ne savaient pas si c'était une blague planétaire ou des repères géographiques pour les extraterrestres. Bref, on a eu toutes les versions plus ou moins farfelues. Et je crois que dans ce film fantastique, eh bien, on a une autre version. Alors, simplement, je voudrais préciser qu'une grande partie du film est fantastique au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on hésite quand même pendant longtemps entre une explication dite rationnelle, hein, et puis l'irrationnel. Hein. Le temps du fantastique, c'est le temps de ce doute, en fait. Mais je crois qu'une personne va en parler beaucoup, beaucoup mieux que moi. Une personne qui a vu le film hier ou avant-hier, je ne sais pas.
Hier soir. Ghislaine. Je ne suis pas encore remise. J'ai quand même un long passé de spectatrice de cinéma, de salles obscures. Quand même, on me l'a fait pas. Moi, j'ai fait Scream, j'ai fait Alien. Ben, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur.
Mais c'est Mel Gibson qui t'a fait peur. Je crois qu'il est particulièrement repoussant dans ce film.
Le pauvre, il a eu bien des malheurs. Et en fait, c'est un vrai frayeur. On se demande, on voit très peu de choses. La musique, bien sûr. Il y a toute une ambiance. C'est vraiment un petit génie, quoi. Night Shyamalan. Avec trois bouts de ficelle, il bâtit une ambiance très efficace. Et bon, si on aime X-Files, si on aime... D'ailleurs, je trouve que les silhouettes entreaperçues ressemblent assez aux petits E.T. Des dossiers X-Files de ce cher Mulder. Donc moi, j'ai marché à 200%. Et puis voilà, c'est très bien foutu. Bon, un bémol, je trouve que la fin du film rentre dans des clichés que j'appelle, moi, de bondieuserie hollywoodienne, où l'explication... de surnaturel et donc du miracle religieux l'emporte. Et surtout est asséné avec une conviction américaine, un peu yankee, un peu détestable.
C'est exactement ce que ne fait pas David Lynch, qui lui prend bien le soin de ne rien expliquer du tout. C'est ça qu'il fait d'ailleurs.
Et malgré tout, il ne faut pas bouder son plaisir. C'est un film, un grand spectacle qui est bien. Quoi.
Enfin bon, pour les bondieuseries, c'est quand même aussi la société américaine qui apparaît à travers ça. Hein. On trouve les bondieuseries jusque dans les discours du président. Non, l'axe du mal, le mal quand même, c'est quand même
ce film
une forme de bondieuserie.
Ce film n'a pas a priori une résonance politique, mais le fait de montrer l'étranger qui intervient dans une communauté comme peut-être le mal en puissance, l'intrus, c'est lui qui forcément va faire ses dégâts dans les champs de maïs, et puis après on s'aperçoit que non, c'est pas l'étranger, c'est un étranger qui est encore plus étranger que les autres, et là, du coup peut-être on peut imaginer que tous les hommes de la Terre redeviennent fraternels à cause d'une menace extérieure, donc il faut vraiment à chaque fois une menace étrangère, très étrangère, pour ressouder la communauté.
Et c'est qui alors qui fait ses dessins dans les champs?
Étienne.
Étienne, je crois.
Étienne qui est perdu, non, bon, qui va arriver.
Mais on ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas. On sait pas. À un moment, bon, avec, bon, il y a aussi une raison psychanalytique, la famille va se réfugier de plus en plus profond au fond de la maison, dans la cave, en fermant les ouvertures, en se réfugiant en fond de soi-même, en un temps de méditation presque. Voilà, pour mieux revenir à la lumière. Enfin bon.
Et puis un pasteur qui a la rage, je trouve ça quand même sympathique.
D'accord, très bien.
J'aime beaucoup Phoenix, je crois que c'est lequel des frères Phoenix joue dans ce film, enfin il est bien.
Joaquin River avait été contacté,
un petit peu mort,
il a eu du mal à venir. Ouais.
Il avait pris trop de produits
Joaquin
à un moment.
Phoenix, c'est super.
Et moi, ce que j'aime bien dans les films de Shyamalan, c'est justement cet univers un petit peu particulier où le héros cherche toujours un sens. Il y a toujours une quête du sens et de la spiritualité. Il y a une quête spirituelle toujours dans les films. Et là, c'est quand même un pasteur qui a perdu la foi et qui justement essaie de retrouver un sens à son existence, puisque la religion avant, c'était le sens de son existence.
Bah, toute la famille est déboussolée. On retrouve aussi le thème de la confrontation père et fils, comme il y avait dans les deux précédents films.
Original, ça.
Bah, ça va être une marque de fabrique de Shyamalan.
C'est dommage d'ailleurs que Robert ne soit pas là, parce que c'est quand même lui le grand spécialiste de Night Shyamalan.
Et du placard.
Il avait fait une prestation remarquable sur Incassable ou sur Le Sixième Sens.
Moi, c'est le placard.
Ah, c'est le placard. Qui est pas Shyamalan. Ça aurait pu. Hein.
Et rassurez-moi, tu as vu Incassable, Ghislaine?
J'ai vu les deux premiers, donc c'est un troisième.
Et là, donc c'est mieux ou moins bien qu'Incassable?
C'est différent. C'est toujours une mythologie américaine ou occidentale, puisque là, il s'agit d'OVNI. Alors que le deuxième film, c'était sur la mythologie des BD des super-héros.
D'accord.
Mais bon, il y a
pas bande dessinée, Patrick.
Non, non.
C'est ça ton problème.
Moi, j'ai moins aimé Incassable.
Ah bon,
et ce film-là, je l'ai trouvé bien.
Tu me rassures.
Voilà, il n'y a pas forcément le même retournement final que dans le premier. Il ne faut pas s'attendre à une réplique du Sixième Sens. Hein. C'est un film différent, mais très, très, très bien.
On peut quand même le conseiller.
Oui. Faut pas avoir les âmes. Faut avoir le cœur bien accroché. Voilà.
D'accord.
Mais moi, je couvrais les yeux, je voulais pas voir l'écran.
Donc, cardiaque, abstenez-vous. Ouais. Si vous êtes muni d'un pacemaker également, faites très attention.
Ouais, puis,
mais sinon, vous pouvez y aller.
Abstenez-vous tout court aussi, même si vous n'êtes pas cardiaque.
Mais non, il dit n'importe quoi, le pauvre.
Non, mais Incassable, c'est un navet, c'est pas grave.
Il sait pas ce qu'il dit.
J'ai pas vu le Sixième Sens, mais bon.
Alors, attention, attention, je dis attention, attention.
Et si je vous dis Barthès, De Sailly, Blanc, Thuram, Elisa Razou, ça tombe bien.
En footeux incorrigible, tu viens de nous rappeler la défense d'Aimé, qui a fait les beaux jours du football français. On a donc souhaité la même réussite à ce film, justement intitulé Défense d'Aimé. Hein, c'est surtout pas tiré par les cheveux, ce truc-là.
Non, non.
Un film distribué par la firme Pathé et qu'on doit à un jeune cinéaste du nom de Rodolphe Marconi. L'association Pathé-Marconi devrait donc faire merveille. Un Marconi qui a son franc-parler, des idées bien tranchées sur notamment le financement du cinéma français via Canal+. Alors, je vous renvoie à sa courte mais assez décoiffante interview dans le Télérama de cette semaine. Alors, Défense d'Aimé a été tournée à Rome dans la somptueuse Villa Médicis, un endroit où sont accueillis en résidence chaque année de jeunes artistes de différents domaines, peinture, musique, cinéma, qui sont regroupés là pour mener à bien un projet en bénéficiant d'une bourse de 6 mois ou 1 an. C'est là même que Marconi avait déboulé en 2000 après avoir été primé pour un court-métrage au Festival de Cannes. Or, ce jeune réalisateur, qui est également acteur dans son propre film et qui avoue avoir tourné auparavant, je cite, une connerie pour TF1, Les Grandes Marées. Bien vu. Il a donc saisi l'occasion pour se mettre en scène dans ce lieu grandiose, peuplé de statues et de jeunes éphèbes. C'est un film à la fois chic et choc, placé donc entièrement sous le signe de la bourse, puisque va s'établir une relation trouble entre les pulsions. C'est les ingrédients du film à la haut fantasma. Et pour ceux qui étaient là dans les premières émissions, on vous rafraîchira la mémoire dans un instant. En Matteo, qui joue d'ailleurs dans les deux camps, hein, puisqu'il drague ouvertement les filles de la villa, au grand détriment de Bruce, pour qui ça ressemble à une débandade. Bon, les Trêves d'Annerie, c'est un film qui semble avoir plu par une certaine délicatesse dans le propos, contrairement au mien. C'est un film sur le désir amoureux traité avec une intelligence et aussi un certain pessimisme qui transparaissent à la fois dans la réalisation et le discours que tient Marconi sur les difficultés d'être un jeune auteur en France. Je pense que c'est une sorte d'anti-Besson, ce type-là. Et au-delà de son film, qui a apparemment convaincu, on a plutôt envie de le soutenir et de lui voir trouver sa place dans le cinéma français où, comme il le dit lui-même, pour plaire aux chaînes de télé, si tu n'as pas 8 actrices pour le casting et 15 bagnoles qui se cassent la gueule, t'es un nul qui fait une daube. Donc on ira voir si ce jeune homme est une sorte de petit Piala ou de nouveau doyen. En tout cas, il ne mâche pas ses mots, donc il mérite notre intérêt.
Gentil, gentil. Intelligent, intelligent. Respect de l'autre, alors là, touchez pas un cheveu de mon pote. N'y touchez pas. Mais respectez-moi et respectons ce qu'on a décidé de faire ensemble.
un morceau magnifiquement cool, hein. C'était signé Mitch Gerber, que j'avoue humblement ne pas connaître. La voix était celle d'une certaine Imogen Heap. Imogen, c'était pas une série avec Dominique Lavanance, si, hein, que tu as regardé en intégralité.
Je vois que tu as des références. Dominique Lavanant, incassable, on fait dans le. Non, on est au top ce soir.
Ah bah, incassable, c'était pas moi. Hein. Ouais. Alors, si ça vous a plu, vous trouvez ça avec un peu de bol, hein, sur une compilation de l'excellent label Milan Records. Mm. On se demande où ils vont dégoter tous ces artistes. C'est fabuleux parce qu'il n'y a pas si longtemps, ils nous avaient déjà bluffé avec un truc qui s'appelait California Dreaming. Que vous avez diffusé et qui nous avait beaucoup plu, enfin je crois. Mm-hmm. Alors ce coup-ci, ça s'appelle Via Gesù Otto Milano. Je demande qui peut acheter un truc mais qui porte un nom pareil.
Excuse-moi, il y a 2 ans, tu apprenais l'italien.
Oui.
Ah donc c'est il y a 2 ans, d'accord.
Alors c'est bien pour ça que 8 de la pochette, je lis Otto.
D'accord.
Alors que tu l'aurais bêtement lu 8. C'est ça. Toute la différence est là, tu vois.
Ah non, je crois que Otto, je crois que c'était un truc allemand, moi.
Mais pas du tout. Non, ça veut dire 8 en Otto et Mezzo de Fellini. Voilà.
Bien sûr.
Et ça a été compilé par un certain Laurent Godard et c'est quasiment tout du même tonneau que ce Embers of Love que vous venez d'entendre et même, je l'espère, d'écouter. Des titres à l'atmosphère comme ça, un peu cotonneuse, un peu paresseuse, qui donne envie de s'allonger dans le canapé avec un whisky ou avec votre voisine. Moi, j'ai plutôt joué le whisky. Hein.
Le voisin, oui. Soyons pas homophobes.
Tu as raison. Alors, si vous avez du mal à trouver cet album dont je rappelle le titre, Via Gesù Otto Milano, je vous renvoie non pas au 22, mais au site internet Milan Records, toutattaché.com. Mm-hmm.
Voilà, ce soir, on a décidé de fêter la 100e émission en vous rediffusant quelques grands moments. Et bien, dans toutes les équipes, il faut un chef qui sait poser les bonnes questions au bon moment.
D'accord.
Celle qui dérange, celle qui gratouille. Notre commissaire Maigret, à nous, a mis dans l'embarras un jour un certain Georges Dupasquier, dont on est sans nouvelles au terme des prétentieux. C'était, bien sûr, le chef Michel, qui, un soir de septembre 2000, je crois que c'est le 4e numéro, et on n'avait pas encore entendu parler de traversée du désert.
Georges Dupasquier, le cinéma, on le retrouve un petit peu sur le. À travers des liens des sites de l'un
Oui, en particulier sur Interlude, puisqu'il y a une rubrique cinéma.
Le cinéma pour vous?
Le cinéma pour moi, c'est l'écran. Pour moi, c'est l'écran de ma bécane.
Voilà, donc. Jean Dupesquier, à part le cinéma, Internet, c'est quoi pour vous?
Et Dieu dans tout ça.
Et Dieu dans tout ça, que fait-il?
Très large la question, hein, très large.
C'est un fabuleux moyen de communication.
Très large. Hein, très
vous comprenez large. Pourquoi Georges Dupasquier s'est suicidé au Lysanxia après être passé dans nos studios.
Oui, pas de nouvelles depuis.
S'il nous écoute, Georges Dupasquier nous passe un petit coup de fil.
Bah oui, il aurait pu venir. Hein,
voilà, mais en fait, c'était le responsable d'un site internet pour le département de l'Ain.
Qui s'appelle interlude.com.
Voilà, qui n'existe plus, qui a été arrêté. Car il y avait des photos, il y avait des photos de footballeurs nus. Voilà Michel, bon, on reprend les sorties nationales peut-être.
On peut saluer l'arrivée de notre
dessinateur préféré
en tête, hein,
oui, Étienne,
le créateur de l'affiche. Merci Étienne et bonsoir.
Qui s'était perdu en venant à l'émission et s'est arrivé à d'autres.
Ah oui,
mais ça, c'est pour tout à l'heure.
Voilà. Ce qui va confirmer la légende, l'éternelle phrase, mais c'est normal, c'est un artiste.
D'accord. Bon, la suite et fin des films que nous aimons ce soir.
Enfin, oui.
Une fois, deux reins. Des raisons de voir ce film, Ghislaine?
J'adore l'accroche, je suis pas sûre. Quelqu'un de bien, est-ce un film bien après Quasimodo del Paris du même Patrick Timsit? Voilà, je pense que Patrick va nous dire dans une seconde ce qu'il en pense. L'histoire, Pierre et Paul, deux frères ennemis. L'un a piqué la femme de l'autre et le délaissé a besoin d'une greffe de foie, donc il essaye de retrouver son frère et de le convaincre. Donc, est-ce que c'est un conte de fées moderne dont nous parlent certaines critiques, ou bien est-ce que c'est carrément le cabotinage infect que déplorent les inrecuptibles? Bon, alors il y en a qui vont parler de dialogue étincelant, d'autres qui vont mettre en avant José Garcia qui aurait enfin trouvé un film à sa mesure.
Je sais pas. Moi, je crois qu'il l'avait déjà trouvé, avec notamment le film de Philippe Harel, Extension du domaine de la lutte, où il montrait vraiment des qualités.
C'était un second rôle, là c'est un premier rôle.
C'est un second rôle qui bouffait le premier, quoi. C'est peut-être ce qui se passe ici d'ailleurs.
Alors, Patrick, comment as-tu trouvé?
J'avais été tout seul dans la salle, je me serais posé quelques questions ce soir, mais on était une quinzaine et j'ai entendu peu de rire dans la salle. Donc ça prouve déjà que le film n'est pas drôle. Il est même parfois limite vulgaire. C'est-à-dire que c'est un film, à mon avis, Timsit, il avait le choix entre choisir de faire une grande comédie burlesque ou alors un film qui jouait sur l'émotionnel. Puis finalement, il n'a pas tranché entre les deux. C'est-à-dire que parfois, il essaie de nous faire rire. Et en général, il tombe plutôt à côté si on accepte les 10 dernières minutes du film où ça tombe un peu dans le burlesque. Et là, on commence un petit peu à décrocher un sourire. Et puis même sur la veine de l'émotion, on n'est vraiment jamais touché par ce film, cette histoire de greffe qui finalement au départ aurait pu sensibiliser les spectateurs. Ben non, on est déçu. Puis alors évidemment, il y a Garcia. Alors certains vont dire que c'est un grand acteur. Alors oui, il s'entraîne, oui, il a toute une équipe, il a même un coach, je crois. Mais il en fait tellement qu'il en devient même caricatural. On dirait même De Niro depuis 10 ans, quoi, en fait. Il y a un moment dans le film où on a l'impression de voir Robert De Niro, parce que c'est vrai qu'il l'imitait très bien quand il était à Nulle Part Ailleurs. Bon, voilà, moi je suis assez déçu par le film. Le seul point positif, c'est finalement, je trouve que Patrick Timsit s'en sort très bien. Ouais, il a beaucoup maigri pour faire ce film, parce qu'on le voit souvent en petite tenue, puisque ça se passe dans le milieu de la thalassothérapie. Mais c'est vraiment très très décevant, quoi. Je m'attendais à voir un truc plutôt léger, un peu moins lourd que d'habitude, puis finalement, c'est pas terrible du tout. C'est un film assez moyen. J'ai même pas envie de le détruire, parce qu'on a vu des comédies beaucoup plus lourdingues ces dernières semaines, mais on reste sur sa fin.
Oui, c'est vrai, tu n'as pas vu Ma femme s'appelle Maurice.
Mais non, mais je vais essayer d'aller le voir. Mais
troisième au box-office. À côté, c'est du Kafka. Ouais, c'est...
Hein. Problème, c'est... Le départ, paraît-il, était pas piqué des hannetons, puisqu'il avait vu perdu de vue Pradel retrouver une famille à une pauvre jeune fille invitée sur plateau, qui avait besoin d'une greffe de foie ou de moelle épinière. Et puis, il retrouve une sœur par alliance ou une demi-sœur. Et devant la caméra et la France entière, il lui dit, voilà, votre sœur que vous ne connaissez pas, besoin d'une greffe, êtes-vous d'accord? Et Timsit, dans son salon de télé, dit, mais ça, c'est une idée géniale de film.
Mais, oui, mais justement, donc tu as raison, mais ça aurait pu être beaucoup plus méchant, ça aurait beaucoup plus, je sais pas, agressif. Mais alors évidemment, c'est des films qui sont produits par TF1. On les voit partout. José Garcia, Timsit, on les voit partout. On les voit chez Arthur. Donc ils ont un peu le cul entre deux chaises. Ils peuvent pas vraiment rentrer dans leur sujet. Ce qui fait qu'on a un film bâtard, un truc qui passe comme ça, qui n'est pas mauvais, mais qui va pas rester dans l'histoire du cinéma. C'est bien dramatique. Alors je pense que Timsit a des qualités. Je parle pas de ses rôles d'acteur, notamment dans Le Rue des Plaisirs ou de Patrice Lecomte, où il était lamentable. Moi je trouve que par exemple dans un film comme Le Cousin, Patrick Timsit, il est crédible. Ou même dans La Crise, où il joue une sorte de paumé, c'était assez bien vu. C'est la même chose pour José Garcia, Christian en a parlé tout à l'heure. Moi-même, dans La Vérité si je mens, numéro 2, moi je trouve que Garcia, il est bien. Là, on a l'impression qu'il nous refait le coup de La Vérité si je mens dans tous ses films. Alors là, il joue le rôle d'un beauf VRP, donc il n'a pas à forcer, évidemment, le trait, puisque c'est quasiment l'impression que c'est naturel pour lui. C'est peut-être aussi ce qui fait que c'est un bon acteur.
Mais moi, j'ai l'impression que dans le cinéma français, les acteurs ont souvent tendance à s'enfermer dans des types de rôles, dans des types de compositions. C'est le cas de Bacri dans un autre registre qui. Enfin, j'ai vu une bande-annonce d'un film qui va sortir. Et...
Les femmes de ménage.
Voilà, c'est ça. Et on voit Bacri faire du Bacri, ouais, encore, c'est-à-dire jouer les grincheux, les solitaires de service. Alors, je trouve ça, c'est un peu dommage.
Il y a manque de polyvalence, peut-être.
Je sais pas si ça vient des acteurs eux-mêmes qui s'enferment par facilité dans le même type de rôle, ou peut-être si c'est la production qui va les chercher quand ils ont besoin de...
On les sollicite uniquement quand on a besoin justement de ce type de rôle.
C'est un peu dommage.
Et puis on a beaucoup dit que le scénario était assez maigre, mais bon, c'est une bien triste réalité, parce que finalement le film, la question est, va-t-il accepter de lui donner son foie au bout de 5 minutes,
donner la réponse
au bout de 5 minutes on a compris que c'était oui, et ce sera effectivement oui, s'il n'y a pas de surprise. Le spectateur, les gens qui iront voir ce film ce week-end auront tout de suite la réponse à la question, et puis alors, la fin devient tellement grotesque qu'on sort sur une très mauvaise note. Voilà. Bon, sinon il y a Sacha Distel qui chante La Belle Vie. Voilà.
T'étais obligé de le dire, tu l'avais suffisamment caché.
Non, mais non.
Là tu l'as achevé.
Les pommes, les pois. Voilà, Michel. Ça...
Suite et fin des films. Oui, petite, oui.
C'était joli cette petite musique, Michel.
Ah, super, maintenant c'est pour vous annoncer que je vais chanter ce soir.
D'accord.
C'est la centième.
Ah non.
Non, on n'a pas dit que tout était permis, non plus.
Bah, vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. Allez, on y va. 1, 2, 3. Si je tombe dans le porno, c'est la faute à Bruisseau.
Ah, c'est joli, c'est Michel.
Je veux dire Bruno, Brissot. Mais c'était pas.
Tu as dit quoi, Michel?
Ah, Bruno? Non, ah. Brissot.
Jean-Claude Brissot.
Jean-Claude.
Oui, et attention parce qu'il est vachement costaud, hein, ouais. Jean-Claude Brissot.
Oui. Ouais. Non, mais il est pas là.
Comme. Un autre Jean-Claude.
Oui, Clément, excuse-moi, Clément.
Alors, oui, chose secrète, c'est le dernier Brissot. Alors, véritable précipité d'épouvante lyrique et, pour ainsi dire, une flèche sombre dans le paysage du cinéma français. Alors, Brissot, bon, on le connaît bien. Voilà près de 20 ans que son cinéma occupe une place précieuse dans notre petite cosmogonie personnelle. Même les films qui nous avaient laissé sceptiques, comme Noces Blanches en 89 avec la troublante Vanessa Paradis, ont fini par remporter notre adhésion. Alors, il nous revient donc en 2002. 2002, avec ce conte marxiste et libertin, hein, qui est sans doute le plus bel opus de ce grand cinéaste de l'archaïsme social. Il signe là en effet une œuvre d'une maîtrise dramatique confondante qui met le feu et claque violemment toutes les portes derrière lui. Hitchcock et Sade, Marx et Marc Dorcel, Edgar Allan Poe et Bresson, le film d'entreprise ironique et la grandiloquence discrète de mouvements d'appareil, la frontalité et la suggestion fantasmatique, les maîtres et les esclaves, la blonde et la brune, tout est là. Alors Brissot a mis dans la bouche de l'une de ses héroïnes, Nathalie, le programme minimal et mégalo de son cinéma, Ose. Et à qui s'adresse Nathalie en disant cela ? Eh bien, elle s'adresse à Sandrine, serveuse dans la boîte miteuse dont les deux filles se font virer et qui s'installe chez elle après avoir osé, c'est-à-dire après avoir joui en se caressant devant elle. Alors, le secret du film est dévoilé. C'est le sexe des femmes, ce qu'elles en font toutes seules ou à deux et ce qu'on peut éventuellement en faire. Le regarder, le toucher.
On t'expliquera.
mais aussi sa puissance politique et son irruption dans la vie réelle. Car après le plaisir comme fin en soin, le désir comme stratégie entre en piste. Nathalie et Sandrine décident en effet d'utiliser leur cul pour monter dans les chaises sociales. C'est pas moi qui le dis, c'est elles qui le disent. Hein. Et en bon marxiste, Brissot s'intéresse aux symptômes et aux structures. Mais il les filme prodigieux décalage du point de vue de ses personnages, c'est-à-dire du point de vue de deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Brissot filme ce cercle infernal, sexe, argent, pouvoir, avec un sens de la démonstration inouï, le mateur maté, le jouisseur dont on jouit à ses dépens, le corps libre dont on profite finalement, l'épreuve du réel à travers le fantasme d'un autre. On pense beaucoup à Eyes Wide Shut devant ces choses secrètes, et pas seulement pour la partouze finale dans un château, on y pense pour y noter les différences. Le film de Kubrick est fondé, lui, sur la frustration de son héros et les punitions immédiates fondatrices qui jalonnent son parcours. Brissot donc laisse ici à ses personnages le temps de jouir, lui. Et pour lui, le jeu avec le désir est un jeu brutal, mais il vaut diablement le coup.
Ce qui est bien, Michel, c'est chez les jeunes, on retrouve cette faux que nous avons perdue au bout de 100 émissions.
Hein. Oh, bah, on est encore jeune, hein.
Bah ouais, mais là, ouais.
Non.
C'était magnifique, hein, Michel.
Superbe. Et le mot cul, c'était pas de toi, là.
Non, mais il l'a bien en bouche, je trouve.
Je me suis entraîné toute la semaine.
Il a bien compris le sens de l'émission. Ouais.
Mais dire que nos impôts servent à payer des études à ces gens-là.
Ouais,
hein.
Ouais.
Non, moi je suis scandalisé.
Grossièreté, c'est pas vulgarité.
Envoyez-nous Jean-Pierre Pernaut. Bonjour, spécial C'est mon choix aujourd'hui avec un thème bien précis.
J'aime les chiens.
J'aime les chiens, j'aime le cul. Et c'est Clément, notre premier invité, qui va nous parler de ses expériences. Et voilà Michel. Non mais on plaisante, c'est une blague, c'est la centième.
La victoire au bout du quai.
Une bande originale extraite d'une très belle compilation nommée Ultra Noir. Ce n'est pas une variété de chocolat, mais des compositions ayant illustré quelques grands polars comme Je le suspecte, Mulan Drive ou Laura et...
Pardon. Non, excuse. Non, mais c'est... Non, c'est rien.
D'accord, tu as encore une érection depuis tout à l'heure, d'accord. Du priapisme, ce garçon. Tu t'en rappelles, Ghislaine? Oui, je sais plus où j'étais. Oui, c'était donc une très belle bande originale d'un film qui s'appelait Jennifer 8, pour cette centième du Terminus. Un polar avec Andy Garcia et Matt Urman, une histoire de serial killer dans un institut pour non-voyants. C'est assez convaincant. Et c'est Christopher Young qui a composé la musique de ce film. Voilà. Clément, tu voulais dire quelque chose sur ce film que tu n'as pas vu.
Que je n'ai pas vu, voilà.
Voilà. D'accord. Bien. Eh bien, après les sorties nationales, parlons un petit peu la suite et la fin de ces sorties.
Ben oui, Michel, il y avait d'autres films qui sortaient cette semaine sur les écrans.
Mais où sont-ils?
Et où sont-ils? Eh bien, ils sont là, Michel.
Ah, bien, bonsoir.
C'est notamment le retour de la souris Stuart Little numéro 2, ou comment continuer à rentabiliser le filon avec une Gina Davis qui vient cachetonner au passage pour payer ses impôts. Et Antoine Decaune qui prête sa voix dans la version française au compagnon de la souris. Il faut bien vivre. Decaune, il double beau.
Et Laurie.
D'accord. J'ai pour habitude de ne pas citer le nom des méduses à l'antenne. Un long métrage canadien un peu dans la lignée de Michael Moore, La partie gauche du frigo, qu'on pouvait voir à Lyon cette semaine, mais qu'on aura beaucoup de mal à voir à Bourg. Ces deux amis, c'est une comédie sociale. Vous suivez un chômeur filmé par son colocataire à la recherche d'un emploi. De très bonnes critiques pour ce film cette semaine. Signalons aussi la sortie depuis le 16 octobre, une excellente date, donc du Dictateur de Chaplin, pour célébrer le 52e anniversaire de l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, avec une version restaurée du premier film parlant de Chaplin. Il avait fait deux films sonores auparavant, Les Lumières de la Ville et Les Temps Modernes. C'est un film qui fut présenté en Allemagne seulement en 1945 et qui, comme vous pouvez l'imaginer, avait reçu un accueil assez froid. Aux États-Unis en 1940, le discours engagé du dictateur avait également jeté un petit peu d'huile sur le feu à une époque où la politique américaine était assez isolationniste. Je parle sous le contrôle de notre ami spécialiste des relations internationales. Voilà, Christian a revu pour nous cette semaine ce chef-d'œuvre, Un barbier juif sosie d'un dictateur, une comédie beaucoup plus convaincante à mon goût que la vie est belle.
Oui, bien sûr. Avant de parler très rapidement du film, parce que sinon ça peut prendre des heures, mais moi, je voudrais remercier des gens comme Claude Jean-Philippe pour son ciné-club sur Antenne 2 à l'époque, ou bien Patrick Brion pour le cinéma de minuit, parce que c'est des gens comme ça qui nous ont permis de grandir avec Chaplin, de voir ces films qu'on n'aurait jamais pu voir en salle. Et c'est avec eux qu'on a acquis une passion pour le cinéma. Et ça fait vraiment très plaisir de revoir ce film sur grand écran. On n'était pas très nombreux d'ailleurs, c'était dans une salle lyonnaise. Et c'est un film qui n'a rien perdu de sa force ni au niveau des gags. C'est une véritable chorégraphie, quoi. Je trouve qu'il y a une organisation des moments drôles. C'est tout à fait comme un espèce de ballet, un ballet drôle. Il y a des scènes qui sont restées dans l'histoire du cinéma et qui resteront à jamais, comme la scène où Hinkle joue avec la map monde géante, ou bien le barbier qui rase un client au son d'une rhapsodie hongroise de Brahms, avec des mouvements totalement synchro par rapport à la musique. Enfin, c'est bourré comme ça de scènes d'anthologie. Et puis le discours final, on peut bien le trouver naïf, tout ce qu'on veut. Moi je trouve pas, je trouve qu'il a toujours autant de force. Il rappelle avec force, avec beaucoup de conviction, des valeurs humaines, la fraternité, qui je trouve dans le monde actuel, avec les événements qui se passent, a d'autant plus de force. Merci. D'ailleurs.
Et il paraît que Hitler a vu deux fois ce film.
Oui.
Alors, surtout le film a eu des problèmes pour sortir parce qu'en fait il était élaboré dès 1938 et il a eu beaucoup de problèmes Chaplin pour trouver d'abord l'argent pour continuer son film, et le film n'a pu sortir qu'en 1940, à un moment où les États-Unis commençaient progressivement à sortir justement de leur isolationnisme et à être un peu moins neutre par rapport à ce qui se passait en Europe. Voilà. Puis...
Et même Chaplin aurait dit si j'avais su ce qui s'était passé par la Suisse, véritablement j'aurais jamais fait ce film, quoi.
Et j'ai parlé de chorégraphie dans les gags, ça c'est l'aspect visuel, mais il y a aussi l'aspect inventivité, notamment au niveau du langage. Il y a le fameux discours prononcé par Hinkle où on entend une espèce de mélange d'allemand, de diverses langues qui donne un effet comique absolument extraordinaire. Qui, à la cinquième ou la sixième vision du film, a toujours le même impact.
Hein. Tout en renvoyant aux aboiements, justement, des houdinitaires nazis. Petit bémol aussi par rapport à ce que tu disais, aujourd'hui il y a Arte qui a diffusé il y a un an à peu
près, vrai, tu as raison.
Un certain nombre de films de Chaplin qui ont gardé d'ailleurs ma collection de vidéocassettes.
Non mais c'est vrai, tu as raison de le dire, mais ça devient tellement rare maintenant de voir des films du répertoire, du patrimoine à des heures décentes que...
Et c'est Marine Karmitz qui a racheté tous les droits donc sur les films de Chaplin et qui est justement en train de lancer toute cette œuvre de restauration qui nous permettra peut-être de voir quelques autres films en salle de Chaplin, on peut saluer. Surtout une époque où des gens réussissent à se faire élire dans une, au Moyen-Orient avec 100% de oui, si vous voyez ce que je veux dire.
Pas du tout.
Mais il paraît que quelqu'un en France a aussi été élu avec plus de 80% des voix. Mais bon, tout va mieux pour lui puisque cette semaine, il a été... apparemment, il peut faire des courses pour plus de 1000 euros
oui,
par
c'est
jour.
Ça, donc, oui. Les poursuites sont abandonnées.
Les poursuites sont abandonnées. On termine, Michel, une dernière sortie s'appelle La Tentation de Jessica. C'est un film américain indépendant sur le monde des lesbiennes, mis en scène par un réalisateur homosexuel. C'est une comédie qui semble très honnête. La plupart des critiques ont trouvé ce film assez distrayant. C'est un film indépendant, tourné en une vingtaine de jours. Voilà, Michel, ça s'appelle La Tentation de Jessica. C'était les autres sorties nationales. Tu es censé reconnaître ce générique, Michel ?
Oh non,
Capital ?
Non, bah j'ai raté.
Mais je regarde pas les émissions présentées par des gibbons, Michel. Les singes, je préfère les voir aux zoo, parce que moi, ces sourcils d'Emmanuel Chien, ça me fait peur.
C'est bien dommage.
Ça me fait beaucoup de peine, parce que moi, je suis entre Brejnev et Emmanuel Chien.
Non, toi, tu as plus les sourcils de Brejnev, parce que tu as eu l'intelligence et la pudeur de t'enlever les sourcils qui étaient entre les deux yeux.
Non, ça pousse pas. Oui, bon, on va peut-être pas.
Et avec ta crève, t'as presque la santé de Brejnev aussi.
Bon, on dirait un bonobo.
Oui. Messieurs les censeurs, bonsoir.
Les infos cinéma sont tropicales.
Oui, mais c'est Christian qui s'occupe des informations au cinéma, Michel, parce que moi j'ai pas que ça à faire.
Non, je te regarde, mais je te parle.
Bon, allez, pas grand chose cette semaine. Oui, une bonne, une mauvaise nouvelle. On vient de retrouver un inédit.